Alors, le verset que je vous propose comme base de notre enseignement ce matin, c'est que Dieu peut faire au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À partir de ce verset, est-ce que vous pourriez éventuellement me dire de quoi nous allons parler ce matin ? Si vous avez une idée. La foi ? La prophétie ? D'autres idées ? Pardon ? De nos besoins ? Pardon ? La grâce ? La bonté de Dieu. Ah ben sur un verset, on peut y aller. Hein. Ce matin, je vous propose un enseignement que j'ai jamais apporté et dont j'ai jamais entendu parler. Ça vous dit ? Vous avez envie de savoir ? Ouvrons la porte à notre imagination. Ça vous dit toujours ? C'est pas souvent, mais prions. C'est pas souvent que je le propose, mais prions avant cet enseignement. Seigneur, nous te prions, en tout cas moi, je te prie pour que, d'une manière particulière, tu nous conduis, tu nous diriges dans cet enseignement, peut-être un peu particulier. Je te prie pour que l'Esprit Saint vienne et nous conduise, nous dirige, nous entraîne à la suite de Jésus, à le suivre. Et à le suivre aussi dans ce thème si particulier. Amen. Je comprends, ou je peux comprendre les réticences qu'il y a d'enseigner sur le sujet. Souvent, nous pensons que imaginer signifie quelque chose qui n'est pas réel. C'est une invention. C'est factice. Et j'ai entendu déjà qu'il ne faut pas imaginer, surtout dans le domaine spirituel. Et pourtant, je suis allé voir dans le dico la signification de l'imagination. Et la première chose qui nous est dite et qui me plaît bien, c'est se représenter dans l'esprit. Je me suis dit, wow, se représenter dans l'esprit. Quand on dit dans l'esprit, c'est dans notre esprit. Là, ils ne vont pas jusqu'à dire s'imaginer par l'Esprit Saint. C'est s'imaginer dans l'esprit. L'autre chose, c'est avoir de la créativité, de l'invention, de la fantaisie, c'est ce qui est des fois un peu compliqué, et de la songerie. Ce sont deux termes là où on est, surtout nous les évangéliques, très prudents. En fait, il y a une bonne et une mauvaise manière d'imaginer. Il y a de l'imagination pour le bien, il y a de l'imagination pour le mal. Quand Jésus dit « si tu regardes cette femme et que tu la convoites, tu es déjà adultère », donc c'est déjà s'imaginer, quoi. Hein, c'est, donc, Ça, c'est plutôt l'imagination, alors, pour le mal. Est-ce que la Bible parle d'imagination? Eh bien oui, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le même verset, hein. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut demander ou concevoir. Au pouvant, au-delà de tout réaliser, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc le verset qu'on a déjà lu, c'est « Dieu peut faire au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. » Il est parlé ici, donc dans ce verset, de penser, d'imaginer, d'espérer, des termes qui nous projettent vers l'ailleurs, vers l'autre chose. Ailleurs par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Si on y réfléchit bien, Hébreux 11 nous dit aussi la même chose. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors c'est moi qui ai rajouté le encore, mais la foi, c'est de se projeter sur l'exaucement de prières que nous sommes en train de demander au Seigneur et nous croyons. Croire, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore, mais on est certain. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas avec nos yeux et pourtant qui existent. J'ai repensé à cette expression d'un ami prophète qui disait, ou qui nous partageait une vision et qui disait, je vois un ange, mais je ne sais pas si je le vois réellement ou si je le vois dans mon imagination. Je ne savais pas. Et j'ai toujours été un peu interpellé par ce que dit l'apôtre Paul, lui aussi, j'allais dire, alors pour toute autre chose, mais probablement pour une expérience que lui-même avait vécue. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps ? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, est-ce que c'est dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait. Il a été enlevé au paradis et il a entendu des choses inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. L'apôtre Paul, probablement, parle de son expérience personnelle. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12, les versets 2-4, pour ceux qui nous écoutent en replay. Il ne sait pas dire dans quel état il était lorsqu'il a vu et entendu ce qui se passait au paradis. Allez, on continue. Daniel, chapitre 4, le verset 13. « Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, hein, il était au lit, hein, il était au pieu, je regardais, Alors, je ne sais pas pourquoi il n'avait pas les yeux fermés, mais bon, voilà, il regarde. Et voici un de ceux qui veillent, dont un ange, donc, qui sont saints, descendis des cieux. Le prophète Osée, chapitre 12, verset 10, nous dit « J'ai parlé au prophète, j'ai multiplié les visions. » Est-ce qu'ils ont bien vu ou est-ce que c'est leur imagination ? Je leur ai proposé des paraboles. D'ailleurs, entre nous, Jésus les a imaginées, ces paraboles. C'était de la vie courante, mais quand même. Lorsque Jésus parlait des paraboles, les gens pouvaient voir de quoi il s'agissait, parce qu'ils connaissaient. Un semeur était sorti pour semer. Ah ben oui, je l'ai vu avant-hier. Hein, par exemple. Enfin bref. Après cela, dit Apocalypse 4.1, « Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » C'est ce « monte ici » là, on avait suggéré qu'il soit écrit et mis sur... sur le mur des marches de la maison de prière. Monte ici à la maison de prière, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Ah, ça c'est prophétique. Ok, ça va pour vous ? Il y a assez de textes bibliques ? En fait, ce n'est pas une étude biblique. Alors, je ne vais pas vous en donner d'autres, ce n'est pas le sujet. Or, c'est sûr que les personnes athées, les sceptiques, ceux qui sont de mauvaise foi, je ne dis pas les scientifiques et les cartésiens, parce que, j'allais dire, il y a plein de scientifiques, je cite souvent quand les gens me disent « Ah, vous savez, moi, je suis scientifique, j'y crois pas. » Alors je dis, ben, mon fils aîné, il a un doctorat en biologie cellulaire et fondamentale, et il croit, et en plus, non seulement il croit, mais il exerce un ministère prophétique. On ne voit pas l'électricité, on ne voit pas le vent, mais ça existe quand même. On ne voit pas le parfum des fleurs, mais on le sent quand même. On ne voit pas Dieu avec nos yeux, mais nous avons continuellement devant nous son amour, ses grandeurs et ses bienfaits. Bref, ce n'est pas tout à fait le sujet. Revenons à l'imagination. David Bruce nous disait dimanche dernier que Adam était intelligent et qu'il avait une intelligence pour... alors, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais pour imaginer quel nom donner à chaque, chaque animal, et aux plantes, etc. Il fallait de l'imagination. Il fallait de l'intelligence aussi. Lorsque le Seigneur a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Il est dit, je n'ai pas la référence, mais j'ai vu ça dans la Bible. Dieu lui a fait cette recommandation, tu veilleras à ce que ton travail soit conforme au modèle que je t'ai montré sur la montagne. Le tabernacle ne pouvait pas être construit sur la montagne, puisque c'était une montagne. Mais il l'a vu. Est-ce que c'était un songe ? Est-ce qu'il dormait ? Est-ce que... Mais sûr, Tu l'as vu, je te l'ai montré. Alors maintenant, veille à reproduire comme je t'ai montré les choses. Puisque je parle de lui, de Moïse, je suis quelque part, la Bible ne le dit pas, mais je suis persuadé que lorsque Moïse a caressé le rêve de libérer son peuple, alors qu'il était, son peuple hébreu, alors qu'il était encore à la cour de Pharaon. Et c'est parce qu'il caressait ce rêve, c'est parce qu'il voyait ou qu'il imaginait déjà le peuple hébreu qui était esclave, il le voyait déjà libre. Peut-être qu'il avait prié en disant « Seigneur, fais-le ». Mais comme ça ne venait pas assez vite, il a tué un Égyptien et puis il a dû s'enfuir dans le désert. Son rêve était bon, son imagination était excellente, c'était le plan de Dieu, mais ce n'était pas selon la manière que Dieu voulait faire les choses. Moïse a voulu faire à sa manière. Il a voulu anticiper les choses et le temps. Vous savez, si je vous dis, je fais un rêve, pensez à qui ? Martin Luther King, forcément. Il rêvait, il imaginait, il espérait, enfin, il voyait déjà que la race noire et blanche pouvait vivre ensemble. J'arrête là, enfin presque, ce que je voudrais dire. Je vais le dire deux fois. Trois si jamais vous n'avez pas compris. L'imagination est une porte qui ouvre des perspectives méconnues. Je répète. L'imagination est une porte qui ouvre des perspectives méconnues. Alors si je parle de moi, dans quelles circonstances j'imagine ? Ben j'imagine lorsque j'intercède pour quelqu'un, et peut-être que des personnes s'en rappelleront, mais il m'arrive en priant pour quelqu'un, de dire « Je me tiens devant le trône de Dieu, j'ai un habit d'avocat et je plaide pour toi. » Et je me vois en habit d'avocat. Et je plaide, « Seigneur, fais quelque chose pour lui, pour elle. » Idem, lorsque je prie pour des malades, lorsque je prie pour la ville ou le pays, lors de ma louange, là, on a chanté, je ne sais pas si vous avez su, mais on a chanté. Il y a un chant, il y a une parole, « Seigneur, je suis à tes pieds », on a chanté. Et bien, quand on a chanté ça, moi, fermant les yeux, ben, je me voyais aux pieds de Jésus, quoi. C'était pas juste des paroles, ah, c'est bien, c'est beau, ouah, je suis au pied de Jésus. Ben, je l'étais. Et de s'imaginer au pied de Jésus, je vous prie de croire que ça devient autre chose que simplement de chanter sans savoir ce qu'on chante. Parce qu'on sait que, ou on prend conscience qu'on est là tout d'un coup devant lui, quoi. Que c'est pas juste des chants pour le dimanche matin, parce que le dimanche matin, on chante ensemble. Seigneur, je suis à tes pieds. Je le chante, mais je le vis aussi. Il y a quelques mois, nous avions une soirée de louanges. Je trouve qu'on n'est pas, nous ne sommes pas assez. dans les soirées de louange, je vous le dis comme ça. Mais je trouve qu'on n'est pas assez. Et quand je dis qu'on n'est pas assez, je dis que vous loupez des choses. Et donc, il y a quelques mois, pendant une soirée de louange, j'ai proposé que l'on imagine de visiter les cieux. Et on l'a fait. Et certains ont dit « Waouh !» Je vais vous proposer ce matin d'imaginer de prendre la scène avec Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui, avec elle, et lui, elle, avec moi. Ce verset dans cette traduction a été une révélation pour moi, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Écoutez, on va faire un essai. Fermez les yeux. Et je vous demande de visualiser un feu de bois. Vous le voyez, le feu de bois, vous voyez les flammes. Vous voyez que c'est beau. Vous entendez même des crépitements, paf, paf. Vous pouvez même jusqu'à sentir l'odeur du feu de bois. Ah, c'est chouette le feu de bois. Ah. Stop. Bon. OK. Quand je pense à ça, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais quand j'étais à la maternelle, j'essayais d'embrasser une petite fille sous un buis. Et à chaque fois que je sens l'odeur du buis, je repense à la manière dont je voulais embrasser cette copine. Certains diront que j'étais précoce, mais bon, c'est pas le sujet. On sait bien que quand les gens sont dans le coma, ou etc., on essaye de leur faire sentir les odeurs, etc. Bon, voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que nous allons distribuer le pain et le fruit de la vigne. Vous allez les garder. Et puis, on va s'imaginer être avec Jésus. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire passer? Allez, vous faites passer le pain, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre, vous les gardez surtout. Hein. Voilà, et puis ceux qui sont qui écoutent en replay, ben, ils font un peu la même chose. Voilà, si vous avez envie de vivre cette expérience-là, je vous demande d'aller chercher du pain et aussi, de quoi prendre la scène. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, je rentre chez toi. Je prends la scène avec toi et toi avec moi. Voici, Gertrude, Francis, Michel, j'en sais rien qui d'autre. Je frappe à la porte de ton cœur et je te dis, viens, nous allons prendre la scène ensemble. Jésus, il fait souvent ça. Il vient chez vous, mais il est un peu votre hôte, mais en même temps, c'est lui qui prend l'initiative de la scène. Hein ? C'est comme si cet après-midi, je viens frapper à votre porte et je dis « Ah, bonjour, bonjour, je viens manger un gâteau. » Il n'est pas gêné, hein, Jésus. Ok, tout le monde est servi. Voilà. Merci pour la distribution. Oui. Merci. Hop. Nous prenons ce matin la scène d'une manière individuelle. Nous sommes en église, mais je ne reviens pas là-dessus, mais depuis des mois, et souvent à l'occasion, je prends la scène, non pas seul, mais avec Jésus. Et ce que je vous propose, ce sont des choses que je vis sur le plan personnel. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est pas grave. Vous verrez par la suite. Ok, vous êtes prêts ? Donc je vous invite de la même manière que tout à l'heure à fermer vos yeux et, comme je le disais, à ouvrir votre imagination pour vivre un moment méconnu, une perspective méconnue, mais que vous pouvez vivre. Comme le dit la parole pour Jean, j'ai vu alors que j'étais couché sur mon lit, sur ma couche. Voilà, je vous invite à fermer les yeux. Et je vous invite à voir, à visualiser une table sur laquelle il y a une nappe blanche, il y a des couverts, il y a même deux bougeoirs et les bougies sont allumées, elles scintillent. En fait, ces bougies nous permettent de voir que c'est un repas en amoureux. Nous allons vivre un repas en amoureux. Vous entendez, même présentement, de la musique. Vous sentez une odeur que vous n'arrivez pas à définir, mais c'est chouette, quoi. C'est agréable. En face de vous, vous découvrez un homme. Regardez-le bien parce qu'il vous sourit. Son visage est rayonnant. Il semble être doux, un bon type, quelqu'un de bien. Et puis vous regardez ses yeux, vous voyez que ses yeux sont profonds. Et il vous regarde avec tendresse. Cet homme, à lui seul, rien que sa présence diffuse une incroyable paix qui est bienfaisante. Avec douceur, vous l'entendez prononcer chaleureusement votre prénom. Vous l'entendez dire votre prénom. Puis avec enthousiasme, avec excitation, avec joie, vous l'entendez dire, sois le bienvenu, sois la bienvenue à ma table. Tu es mon invité aujourd'hui. Vous n'osez pas lui demander qui il est, parce que vous savez déjà qui il est. Vous savez que c'est Jésus, Yeshua, le Messie. D'ailleurs, les bras de sa chemise sont remontés, un peu enroulés, jusqu'au coude, et vous avez remarqué ses cicatrices au poignet. Vous n'osez pas le regarder en face. Vous vous sentez gêné. Vous pensez même que vous n'êtes pas à votre place. Oui, c'est ça, vous vous sentez indigne. Et regardant les yeux en bas, tout d'un coup, vous voyez vos vêtements qui sont pleins de taches. Et vous vous dites, ah purée, j'ai pas vu que j'avais plein de taches. C'est pas un habit pour vivre un repas de fête, d'amoureux. Je suis pas bien habillé. Il voit votre gêne. Il vous regarde et il la voit. Il voit que vous êtes gêné. Alors il se lève. Il se lève et puis il se met à côté de vous, pas derrière, mais juste à côté. Il se penche gentiment. Vous l'entendez de nouveau prononcer votre prénom. Et il te dit, sois sans crainte. Ne promène pas des yeux inquiets. Regarde mes cicatrices. Regarde, j'ai les mêmes aux pieds. Regarde d'ailleurs, j'ai la même sur le côté. Si j'ai ces cicatrices, c'est que je les ai pour toi et pour te revêtir d'habits propres. Et puis, jusque-là, tu n'avais pas fait attention, mais parce que, à cause de l'habitude, tu n'as pas senti que sur toi, tu avais un sac à dos. Et Jésus vient et te dit, s'il te plaît, donne-moi ton sac à dos. Oh, bah mince, ton sac à dos, qu'est-ce qu'il est lourd! Mais qu'est-ce que tu transportes comme ça tous les jours avec toi? Et il te dit, ah, je vois, ce sont tes peines, ce sont tes souffrances, ce sont tes souvenirs qui te font mal, c'est ta culpabilité. Je vois qu'il y a aussi dans ton sac à dos tes échecs, tes incapacités, ton état d'esprit d'infériorité. Oh, mais il y a aussi dans ton sac à dos un poids de la dépréciation de toi-même. Tu ne t'aimes pas. Et ça aussi, tu le transportes depuis. Pas étonnant que ton sac à dos est lourd. Comment peux-tu continuer à marcher ainsi? Et puis tu vois Jésus prendre le sac à dos et il le met sur son dos à lui. C'est lui qui le porte dorénavant. En un clin d'œil, comme par miracle, sans que tu l'aies vu, il t'a habillé de vêtements de fête tout propres. Tu te dis waouh, waouh, je suis propre, je suis bien sapé. Il s'assied de nouveau en face de toi et il prend le pain qui est sur la table. Voilà, il en brise un morceau, il te le donne. C'est le morceau de pain que tu as dans la main. Il prend lui aussi un morceau. Et t'appelant à nouveau par ton prénom, il te dit « Hé, je suis le pain de vie. Qui te donne la vie ? Mange avec moi ce pain. » Et tu prends le pain que tu as dans la main et tu le manges. Il prend la cruche qui est sur la table et il en verse dans le verre, le tien et puis le sien. Et commençant de nouveau par ton prénom, il te dit « Hé, mon sang a été versé pour toi. C'est grâce à cela que tu es débarrassé de ton sac et de tes vêtements sales. Bois maintenant avec moi et sois libre. » Et tu bois ce que tu as dans la main. Enfin, tout d'un coup, tu te sens léger, légère. Tu te sens en joie malgré ce temps qui pourrait être solennel, mais la joie a pris le dessus. Tu as un sentiment de joie. Et Jésus se lève. Il te prend par la main et dit « Viens, viens. » Et puis tout d'un coup, vous dansez ensemble. Il te fait tournoyer. Vous éclatez tous les deux en joie. Tu entends ton rire, tu peux même entendre le rire de Jésus faire la fête avec toi. Finalement, la danse s'arrête et Jésus, le regard plein de satisfaction, t'appelle à nouveau par ton prénom et te dit « J'ai aimé vivre ce moment avec toi et j'attends avec impatience la prochaine fois. Va et à très bientôt. » Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous, qu'avec notre imagination, nous puissions nous retrouver devant toi, qu'avec notre imagination, nous puissions vivre les chants que nous chantons autrement, nous puissions les chanter avec une autre attitude. Seigneur, qu'avec notre imagination, nous puissions vivre nos temps de prière et de méditation biblique autrement. Seigneur, donne-nous d'être convaincus que tous les jours tu nous accompagnes partout où nous allons. Qu'il n'y a pas de rupture de ton côté. Seigneur, qu'au travers de l'imagination, tu nous apprennes, ce sera pour une autre fois, mais tu nous apprennes à contempler des anges, à voir dans les cieux, à voir le monde spirituel mauvais, à voir notre ville, notre pays, notre planète d'une autre manière, dans un autre temps, dans un autre moment. Seigneur, nous souhaitons que, avec notre imagination, nous puissions sentir quelles sont les émotions de ton cœur, celles que toi tu as, afin que nous puissions devenir tes amis et partager tes émotions, partager tes sujets de prière. Tu entends tellement les nôtres, tellement et si souvent, que nous oublions d'être près de ton cœur pour entendre les tiens, tes sujets. Mais entraîne-nous les uns et les autres dans ce chemin où l'imaginaire, l'imagination plutôt, est quelque chose qui fait partie de notre vie pour pas seulement l'agrémenter, mais nous donner une autre position. Dans mon imagination, je suis fils de Dieu et frère de Jésus-Christ. Je ne suis pas esclave. Et que à chaque fois que nous lisons ta parole, que nous entrons en prière, aide-nous chacun à vivre l'imagination comme une porte ouverte à des perspectives nouvelle et méconnue. Amen.